Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiriec et Claire Morin-Gibourg en direct de la capitale américaine. Vendredi 8 mars 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
8 mars, journée internationale de la femme, nous ferons le point sur les manifestations en Afrique et dans le monde.
Nous irons à la rencontre de Moumina Hossein Dara, une Djiboutienne qui a reçu le prix Femme de Courage au département d'État à Washington.
Et puis dans l'actualité, les manifestations continuent en Algérie contre le cinquième mandat du président Bouteflika.
Dernier jour de campagne en Guinée-Bissau avant les élections législatives de dimanche.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports dans un peu plus de 10 minutes. Mais d'abord, le journal.
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, célébrée aujourd'hui, vendredi 8 mars, une série d'événements ont lieu en Afrique. Le point avec Jacques Aristide.
De Dakar à Yaoundé, en passant par Djouba et Nouakchott, la journée est marquée par des manifestations, des réunions, des initiatives et des concerts. Au Burkina Faso, les femmes portent le faso d'Amfani, pain tissé dans le pays et source de revenus réguliers pour de nombreuses Burkinabés. À Madagascar, le 8 mars est un jour férié pour toutes les travailleuses. Une journée qui permet de braquer les projecteurs sur toutes ces femmes courage, comme Grace Losiyo. En dépit de la pauvreté et de la guerre dans son pays, cette Sud-Soudanaise veut aider les futures mères de son pays à ne pas mourir en couche. Grace forme autant de sages femmes qu'elle peut.
Je suis fière d'aider mes compatriotes sud-soudanaises.
L'occasion également pour 45 femmes activistes de 15 pays africains d'adresser une lettre ouverte aux dirigeants mondiaux. Au rythme actuel, écrivent-elles, il faudra encore 108 ans avant d'en finir enfin avec les inégalités de genre dans le monde. Elles leur demandent d'aller au-delà des beaux discours pour les femmes et les filles vivant dans l'extrême pauvreté. En Mauritanie, elles sont bien décidées à ne pas se satisfaire d'un non. Malgré les revers au Parlement, les militantes des droits des femmes se battent pour une loi contre les violences envers les femmes. Une journée qui met également en exergue les success stories et les égéries, à l'image de la Camerounaise Aïssa Doumarangantansou, qui gère une association d'aide aux victimes de viols et de mariages forcés dans son pays et qui a reçu ce vendredi le premier prix Simone Veil. Ou Ramata Ali Bakayoko, première ivoirienne à l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris, ou encore Bouchra Baybanou, cette Marocaine de 50 ans, la première de son pays à conquérir les plus hauts sommets du monde.
Au-delà du continent, cette journée du 8 mars a aussi été célébrée dans le monde par des manifestations ou des séances de réflexion. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
En Grèce, un arrêt de travail de 3 heures a été observé ce vendredi par les hommes et les femmes dans de nombreuses administrations publiques à l'appel des syndicats, une première selon le mouvement du 8 mars, une initiative féministe grecque. À l'instar des Espagnols qui, pour la deuxième année consécutive, sont en grève pour défendre leurs droits, les Grecs ont décidé cette année d'imiter cette initiative visant à mettre en évidence les discriminations et le sexisme à l'endroit des femmes. En Grande-Bretagne, la militante Caroline Criado Pérez a choisi ce 8 mars pour la sortie de son livre « Invisible Woman » qui est déjà largement commenté sur les réseaux sociaux. Elle y dénonce, je cite, « un monde conçu pour les hommes et dont les femmes paient le prix ». De l'urbanisme à la politique, de la vie quotidienne au design, l'auteur a voulu montrer à quel point les préjugés sexistes déforment les données prétendument objectives qui régissent de plus en plus nos vies. Enfin, au Pakistan, les célébrations du 8 mars ont été marquées par l'hommage à un Pakistanais qui a été abattu cette semaine pour avoir dénoncé ce qu'on appelle là-bas un crime d'honneur. Son tort, avoir dénoncé dans ce pays très conservateur l'assassinat de femmes qui étaient apparues en 2012 dans une vidéo de mariage où elles s'amusaient aux côtés des hommes.
Nous reviendrons sur cette journée internationale de la femme dans la seconde partie de cette édition.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité africaine, nouvelle journée de protestation en Algérie. Des milliers de personnes défilent dans le centre d'Alger et dans les grandes villes du pays pour un troisième vendredi consécutif contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Raïssa Girondin.
Ces nouvelles manifestations ont coïncidé avec la célébration de la Journée internationale des droits des femmes et nombre d'entre elles figuraient parmi les manifestants défilant dans le calme au cri de « pouvoir assassin » ou « pas de cinquième mandat Bouteflika ». La mobilisation était largement supérieure à celle des manifestations des deux derniers vendredis à Alger. Aucun incident n'a été signalé. Initialement présents en nombre, les policiers se sont contentés d'observer avant que plusieurs camionnettes de police ne commencent à évacuer la place. D'autres manifestations ont eu lieu ailleurs dans le pays, notamment à Oran et Constantine. Les Algériens n'ont, semble-t-il, pas été impressionnés par le message que leur a adressé jeudi M. Bouteflika, hospitalisé en Suisse et dont le retour au pays n'a toujours pas été annoncé. Dans ce message, à l'occasion du 8 mars, le chef de l'État a agité le spectre du chaos et dénoncé, sans les nommer, les ennemis insidieux et ceux qui conspirent contre l'Algérie.
En soutien à ces manifestations en Algérie, plusieurs centaines de personnes ont également manifesté aujourd'hui à Paris pour dire non à un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika.
Les Bissau-Guinéens se rendent aux urnes dimanche pour élire leurs députés. Le dernier jour de la campagne a été endeuillé par la mort de 6 personnes dans un accident de circulation. Des précisions avec Ekabadou.
L'accident est survenu à Mambolko, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, entre un véhicule du parti africain pour l'indépendance de la Guinée, du Cap-Vert, et un car transportant des passagers, selon un responsable national des transports routiers. Le choc était tellement violent que le car a pris feu, laissant peu de chance aux passagers, dont 6 sont morts, a précisé ce même responsable, qui a fait également état d'un nombre indéterminé de blessés. 21 partis sont en lice pour le scrutin de dimanche. Celui-ci doit permettre de sortir ce pays d'Afrique de l'Ouest de plus de 3 ans de crise entre le président José Mario Vaz et la direction du PAIGC, vainqueur des élections de 2014 et dont il est pourtant issu. Nous allons gagner pour changer la situation en Guinée-Bissau. Le PAIGC a fait beaucoup d'années au pouvoir, mais il n'y a pas d'école, pas de travail, a déclaré Fernando Cabral, un partisan du MADEM. La campagne a été émaillée d'accusations d'irrégularité sur les listes électorales.
En Guinée équatoriale, un militant de l'opposition a été inculpé pour tentative d'assassinat contre le chef de l'État. Elo Ayeto avait été arrêté fin février pour avoir critiqué le président Teodoro Obiang-Nguema.
Direction la RDC à présent, l'ONU plaide pour un désarmement réel au Kasaï et pour des mesures d'accompagnement des miliciens qui commencent à déposer spontanément leurs armes. Selon eux, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour que les combattants ne se sentent pas obligés de retourner au combat.
En République du Congo, 6 policiers ont été jugés coupables de la mort de 13 jeunes dans un commissariat de Brazzaville en juillet 2018. Ils avaient été placés en détention, en garde à vue, après leur interpellation lors d'une opération de police dans un quartier de Brazzaville pour traquer des délinquants, selon les termes des forces de l'ordre.
Au Zimbabwe, un ancien maire de la ville de Victoria Falls a été arrêté à son domicile avec 2 autres personnes pour trafic d'ivoire. La police a saisi un total de 120 kilos d'ivoire.
Au Soudan du Sud, 3 soldats ont été condamnés à mort et un quatrième à 10 ans de prison ferme aujourd'hui pour le meurtre de 2 civils lors de cambriolages. C'est la première fois qu'un tribunal reconnaît la culpabilité de soldats qui sèment la terreur la nuit dans les zones résidentielles de la capitale sud-soudanaise et ailleurs, affirmé le général Santo Domic, porte-parole de l'armée.
Le reste de l'actualité dans le monde, Syrie, les derniers djihadistes du groupe État islamique étaient repliés dans un campement au bord d'une rivière dans l'est de la Syrie ce vendredi. Ils sont assiégés par des forces soutenues par Washington qui s'apprêtent à leur livrer une ultime bataille.
Des milliers d'hommes, femmes et enfants, dont de nombreux blessés et éclopés, fuient encore le village de Baghouz. Par ailleurs, en Syrie toujours, la Turquie et la Russie vont entamer aujourd'hui des patrouilles dans le nord-ouest du pays, à Idlib. C'est ce qu'a annoncé le ministre turc de la Défense. Idlib est contrôlé par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham, une organisation formée par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda.
Et puis ici aux États-Unis, Donald Trump se dit conforté pour la peine relativement clémente infligée à son ancien directeur de campagne Paul Manafort dans le cadre de l'enquête russe.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Kiro Games, une entreprise fondée par le jeune promoteur camerounais Olivier Guillaume Madiba, spécialisée dans le développement du jeu mobile, veut lever $1 million pour positionner la société et son projet dans sa prochaine phase de développement. Ecofin, qui révèle l'information, écrit que cette opération est une ouverture de capital qui permettra à des investisseurs en quête d'opportunités de croissance rapide et de sortie rentable de pouvoir se positionner. Le Zimbabwe veut supprimer une loi qui interdit aux sociétés étrangères d'extraction de platine de contrôler leurs opérations. Cette loi sur l'émancipation économique des Noirs, adoptée sous Robert Mugabe, limite les activités des mineurs étrangers de platine et de diamants à 49%. Elle vise à accroître la part des Zimbabwéens noirs dans les mines, mais les investisseurs étrangers dénoncent des difficultés et des abus dans sa mise en œuvre. Le Zimbabwe détient la deuxième plus grande réserve de platine au monde après l'Afrique du Sud. Pour terminer, la Tanzanie ordonne à Acacia Mining de mettre un terme à la pollution des eaux usées de sa mine d'or de North Mara d'ici le 30 mars, sinon ses installations seront fermées. North Mara est la plus grande mine d'acacia. Elle a produit 336 055 onces d'or l'an dernier, soit 65% de la production de la société selon le rapport annuel d'Acacia. Elle fait depuis longtemps l'objet d'accusations de pollution, ce qu'Acacia Mining avait précédemment démenti.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le Cameroun de Rigobert Song qualifié par forfait pour la CAN des moins de 23 ans.
Oui, adversaire des Lionceaux U23 pour le deuxième tour, la Sierra Leone se trouve toujours sous le coup d'une suspension de la FIFA pour ingérence gouvernementale et la CAF a informé les deux fédérations que les Lone Stars sont par conséquent disqualifiés. A priori, Rigobert Song devrait tout de même profiter de cette date FIFA pour organiser un rassemblement et des matchs amicaux. Rappelons que la sélection senior de la Sierra Leone a aussi été disqualifiée des éliminatoires de la CAN 2019.
Pas encore qualifié et en préparation, le Mali a battu le Burkina en match amical.
Oui, les Aiglons ont dominé les étalons espoirs 2-0 hier au stade Modibo Keïta de Bamako. Le retour est prévu pour ce dimanche 10 mars, toujours dans la même enceinte. Le sélectionneur du Mali se satisfait de ce match test aller face au Burkina Faso.
Ce que nous parlait aujourd'hui, c'était la victoire pour nous mettre en confiance. Je pense qu'on l'a fait. C'est vrai, il y a eu beaucoup de déchets, surtout sur le plan offensif. Et même défensivement aussi, il y a eu des erreurs que nous allons corriger. C'est un début, c'est pas mal. On ne peut pas tout reçus. Mais ce qui a été bon quand même, il faut le dire, c'est qu'offensivement, nous avons pesé. Nous avons raté beaucoup d'occasions. Nous avons marqué deux buts, nous avons gagné le match. C'est une préparation qui débute. Et je pense que nous avons encore le temps avant l'arrivée des expatriés pour nous renforcer.
Fanieri Diarra, sélectionneur du Mali au micro de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, qui a aussi recueilli les propos du coach burkinabé, Brahma Traoré.
C'est vrai que ce soir, il y avait par moments de bon rythme, mais nous souhaiterons en tout cas que le match de dimanche soit un match vraiment très tendu, avec un rythme vraiment très infernal. Nous allons en tout cas imposer ce rythme à l'équipe malienne, surtout que nous avons remarqué que vers la fin de la partie, elle n'existait plus physiquement. Nous pensons devoir faire ce travail-là pour qu'elle puisse comprendre également qu'il y a un manque à gagner de ce côté.
Brahma Traoré, sélectionneur des étalons des moins de 23 ans. Rappelons que l'équipe nationale olympique du Mali jouera contre les Antilopes de l'Éthiopie un match aller le 23 mars à Addis Abeba et le retour se fera à Bamako le 26 mars. Cette double confrontation compte pour les éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans Égypte 2019. Le Burkina Faso a lui été éliminé au tour précédent par le MENA Espoir du Niger.
Nouveau troupe pour la Roma avec le départ de son directeur sportif.
Oui, Monchi a quitté le club au lendemain du limogeage de l'entraîneur Eusebio Di Francesco. L'AS Rome a été éliminé mercredi dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et seulement cinquième du championnat. L'Espagnol, âgé de 50 ans, s'en va d'un commun accord près de deux ans après son arrivée. La Roma, demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, a nommé son successeur Frédéric Massara en attendant toujours la nomination d'un futur entraîneur qui pourrait être Claudio Ranieri, à en croire certains médias italiens.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
retour avec vous, Morgane Guiriec et Claire Morin-Gibault. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Fin de notre série consacrée aux conditions de vie des femmes sur le continent. Cap sur la RCA, où malgré l'adoption d'une loi sur la parité, son application pose encore problème. Les femmes insistent pour participer pleinement dans les instances de prise de décision. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Pour un pays comme la République centrafricaine qui sort encore d'une crise complexe et destructrice, les femmes ne veulent pas rester en marge des processus de prise de décision. À l'occasion de ce 8 mars, elles ont organisé plusieurs débats à travers le pays sur le rôle de la femme dans la reconquête de la paix et le relèvement. Pour la première dame Brigitte Ouadéra, les femmes doivent innover pour participer au développement.
Innover dans notre contexte actuel signifie développer des stratégies de paix dans nos communautés. La femme doit penser autrement pour des actions de changement là où elle se trouve. La Journée internationale de la femme est également une occasion non seulement de célébrer la femme dans toutes ses dimensions sociales, économiques et politiques, mais aussi de réfléchir sur tous les enjeux et les problèmes que les femmes rencontrent dans la vie quotidienne.
Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement, ce thème était au centre d'une réflexion organisée à Bangui par la Fondation Mamandoyo pour le développement. Virginie Guinaoui Napalien, membre de cette structure.
La femme, c'est le pilier. Il faut que la femme se lève. Il est temps pour la femme pour se battre. Si nous nous battons bien, ce pays va se relever. Et je demande à toutes les femmes, y compris nos enfants, nos filles, de se battre dans la vie. Et il faut que les femmes aident les filles à aller à l'école. Même les femmes qui ne sont pas alphabétisées, il est temps pour elles d'aller à l'école. Elles peuvent aller à l'école s'instruire.
Innovation, participation au développement, tout cela doit passer par le respect des droits des femmes. C'est ce que l'Association des femmes juristes de Centrafrique a enseigné ce vendredi à quelques femmes. Karine Fornel Poutou est sa présidente.
C'est d'attirer l'attention de la communauté internationale et nationale et surtout les femmes sur leurs conditions. Surtout en ce qui concerne la participation de la femme dans les instances de prise de décision, son autonomisation économique et aussi sa participation en ce qui concerne la paix.
Pour mieux participer au relèvement et à la consolidation de la paix en Centrafrique, les femmes réclament plus de participation au sein des instances dirigeantes. Monique Nali, coordonnatrice du mouvement des survivantes de Centrafrique.
C'est pour éveiller les femmes à faire le plaidoyer auprès du gouvernement, auprès de l'Assemblée nationale, auprès de nos grandes institutions, pour l'inclusion totale de toutes les survivantes des conflits armée dans notre pays, dans la mise en œuvre de la consolidation de la paix et du relèvement national.
Cette journée du 8 mars est aussi célébrée dans les autres villes de la République centrafricaine à travers des échanges et des manifestations socioculturelles. Freeman Sipila, Bangui pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM. Direction la Guinée, quelle place des femmes dans les médias? Réduites à des stéréotypes ou victimes de machisme, les femmes sont très peu sollicitées à des postes hiérarchiques. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
Pour célébrer la femme en ce 8 mars, plusieurs radios et chaînes de télévision de la capitale ont aménagé des espaces pour des émissions spéciales réservées aux femmes. D'autres ont laissé l'antenne à des voix féminines. Dans la plupart des salles de rédaction, les hommes étaient peu nombreux. Arisatou, secrétaire de rédaction, et Balarissa, journaliste à la radio Espace Guinée, se prononcent sur ce programme spécial.
On ne peut pas revendiquer tous nos droits en une journée, c'est pas possible. Je pense que ça doit être un combat de tous les jours. Le rôle des femmes ne doit pas être différent de celui des hommes. Donc, quand on est dans une rédaction, il faut essayer de faire des choses qui sont intéressantes, ne pas rester seulement dans des émissions où on fait l'animation, où on s'amuse et tout. Il faut oser aller vers la rédaction politique.
Pour la journée d'aujourd'hui, ce sont nous-mêmes femmes qui nous sommes imposées de faire certaines tâches. Aujourd'hui, le journal des sports, aujourd'hui, c'est une femme. Elle a décidé, la direction n'a pas choisi si ça devrait être une femme ou pas. Elles se sont levées d'elles-mêmes et on dit qu'elles pourront le faire. Et voilà pourquoi cette journée, vous avez remarqué, éduquer plus de femmes.
L'espace médiatique guinéen en pleine mutation s'est en peu de temps très vite enrichi avec la libéralisation de l'audiovisuel. Une soixantaine de radios et 7 chaînes de télévision privées sont autorisés à exercer à Conakry et dans les régions. Malgré ce nombre, trouver sa place dans les médias n'est pas une sinécure pour les filles et femmes. Mafoudia Bangoura, l'une des 2 femmes au milieu de 5 animateurs des grandes gueules, l'émission la plus écoutée à partir de 9h.
Le nombre de femmes scolarisées, et plus ça évolue, plus ça diminue. Si vous voyez que pour les hommes, ça augmente, avant l'université, il y a peu de femmes qui arrivent à l'université. Donc comment espérer que celles-ci se retrouvent au poste de prise de décision? En plus de cela, il y a des problèmes aussi de confiance en soi. Et tout ça, c'est la société. Mais ce qui est bien, c'est que d'année en année, on est en train de franchir des étapes. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Quand même, il reste beaucoup, beaucoup à faire. Ça, c'est une réalité.
Les femmes se voient généralement confiées de petits rôles sur les antennes. Pour changer la donne, les associations de défense des femmes misent sur la formation. Adiatou Yaya Sall, membre de l'association des femmes journalistes de Guinée.
Pour pouvoir booster le talent des femmes, alors ce que je pourrais dire, nous nous basons beaucoup sur la formation. Lorsqu'elles sont bien formées, elles peuvent plus oser de faire certaines choses, elles vont comprendre le métier et peut-être qu'on pourra avoir des femmes au poste de décision.
Certaines femmes sont victimes du machisme, reconnaît le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Mais pour Sanou Kerfala Cissé, d'autres raisons pourraient expliquer la mauvaise situation des femmes dans les médias.
Il y a certains machos parmi les hommes qui font tout pour ne pas que les femmes avancent. Mais il y a d'autres hommes aussi qui se battent pour l'épanouissement de ces femmes-là. À part ce problème de ménage qui empêche beaucoup de femmes aujourd'hui d'évoluer, je pense qu'elles ont la fougue, elles ont le talent, elles ont la connaissance. Je vois quand même que ces femmes, des braves femmes dans le milieu des médias, se battent, rivalisent d'ardeur avec les hommes.
Seulement 3 femmes occupent la direction des entreprises de presse privée sur plus de 70. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Moumina Hossein Darar, 28 ans, fait partie des 10 femmes ayant reçu le prix Femme Courage décerné par le gouvernement américain. À Djibouti, elle est la seule femme chargée d'enquête dans la cellule antiterroriste de la police nationale. Ekabadou la rencontre au département d'État hier à Washington après la cérémonie de remise de ce prix.
Je ne m'attendais pas à ce prix, mais je suis très fière d'être parmi ces femmes de courage qui ont fait preuve de leur travail.
Alors vous êtes très fière d'être parmi ces femmes de courage. Est-ce que vous nous parlez un peu de ce métier que vous faites, qui n'est pas un métier où on trouve forcément beaucoup d'hommes?
En fait, premièrement, je suis née d'une famille nombreuse d'hommes. Je suis seule et j'ai une petite sœur encore. J'ai 6 autres frères, c'est pour ça que je suis entourée de hommes. Et c'est facile pour moi de continuer ce travail, d'engager avec mes collègues.
Dans un pays où les femmes ne sont pas toujours mises en avant, est-ce que ça a été facile pour vos frères de vous encourager, pour votre maman de vous encourager vers cette voie?
Premièrement, ma mère et mes petits frères plutôt. Elles sont très fiers que j'effectue cet emploi et ils m'encouragent.
Djibouti aussi est fier de vous. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes pour les encourager aussi à ne pas avoir peur et à faire des métiers qui ne sont pas forcément là où on les attend? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour qu'elles puissent aussi voir votre exemple comme un autre modèle?
Je vais le dire à les femmes djiboutiennes. Surtout, nous avons une tradition qui dit que les femmes doivent rester au foyer. Je veux dire que ce proverbe n'est pas valable. Il faut continuer, il faut sortir de la maison, il faut partir en avant. La femme peut faire ce qu'elle veut. La religion ne nous empêche rien. L'encouragement de celle-ci pourrait contribuer énormément à l'éradication de la planète, d'ici au appelé communément terrorisme, et qui est conduit par une minorité de religieux de tous bords qui viennent imposer par la force l'ère idéaux de notre âge.
Qu'est-ce qui vous a attiré vers la lutte contre le terrorisme?
C'est venu très jeune pour moi.
Pourquoi?
Parce que le terrorisme est un fléau international. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion particulière. Donc, lutter contre le terrorisme. Et nous sommes aussi localisés dans une zone qui est plutôt occupée par des terroristes.
J'ai vu que vous travaillez dans une ONG. Vous avez aidé des familles où il n'y avait pas beaucoup de revenus. Comment faire pour vous aider encore à aider d'autres familles?
En fait, c'est une petite association qu'on a récemment créée, moi et mes collègues. Donc, cette association n'a pas encore un statut. On va lui faire un statut. C'est aider les jeunes orphelins et les pauvres, surtout les enfants, femmes et hommes.
Voilà, c'était Moumina Hossein Darar, qui est la seule femme chargée d'enquête dans la cellule antiterroriste de la police nationale et qui a donc eu un prix du département d'État.
En cette journée mondiale des droits de la femme, de nombreuses associations montent au créneau pour sensibiliser sur les violences sexistes et le harcèlement sexuel. Récemment, les Africaines se sont invitées dans ce mouvement, le mouvement MeToo aux États-Unis, contre le harcèlement sexuel, en créant lors du FESPACO le hashtag « Même pas peur ». Pour une analyse, Nathalie Barge a joint ici à Washington Aissata Thiam, consultante engagée dans la cause féminine.
Il y a eu le monde du cinéma, de la mode, de la politique, plein de personnalités qui ont été éclaboussées. Et il y a eu beaucoup de démissions ou de démentis par rapport à ça. Bon, en tête d'affiche, les scandales dans le milieu ecclésiastique aussi aux États-Unis, en Australie, en France, des évêques qui sont pénalement responsables d'actes sexuels. Et il y a le documentaire de HBO sur Michael Jackson. Moi, je me dis le MeToo, ça ne s'adresse pas simplement aux femmes qui ont été agressées, mais du coup, même les enfants ou les jeunes, les hommes qui sont agressés, ils viennent un peu plus parler de ce qui leur est arrivé il y a beaucoup d'années. Et puis, je voulais parler de cette sénatrice, la Martha McSally, qui elle, après presque 30 ans de service dans l'aviation américaine, elle a avoué qu'elle aussi, elle a été agressée par ses supérieurs. Et puis, il y a le mouvement Time's Up, maintenant où ils ont pu collecter des millions et des millions de dollars pour pouvoir aider un peu à la défense des femmes qui ont été agressées et qui veulent porter plainte.
Est-ce que vous pensez que ces mouvements font évoluer les mentalités?
Bon, maintenant, le silence, je pense, sera de moins en moins. Les gens auront plus tendance à se plaindre dès qu'ils sont victimes. C'est aussi bien du côté des femmes que du côté des hommes qui feront attention maintenant dans leur comportement. C'est sûr, aussi bien dans le milieu familial que dans le milieu professionnel. Et les femmes auront plus tendance à ne pas se taire.
Est-ce que selon vous, ce mouvement permet de faire évoluer la justice en ce qui concerne le harcèlement sexuel aux États-Unis?
Absolument, parce que là maintenant, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le fait que les gens se rendent compte qu'il faut écouter les victimes et il faut leur donner beaucoup de crédibilité. Mais non seulement cela, mais aussi ce que les autres penseront d'un jugement qui sera en défaveur des victimes. Donc les gens font beaucoup plus attention quand ils font les rendus de justice.
Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir fusion entre toutes ces femmes du continent africain, ces femmes des États-Unis et du monde entier en ce qui concerne cette lutte?
La condition pour cela, c'est qu'il y ait un certain leadership. Il faut que la volonté soit clairement exprimée de vouloir fédérer tous ces différents mouvements de MeToo, de Balance ton port et même pas peur. Mais au moins avoir des rôles modèles pour ce nouveau mouvement, ça va aider parce que le chemin a été déjà balisé.
Alors vous avez justement dit à propos du leadership, est-ce que le problème finalement, si l'on peut dire, est le fait que ces mouvements n'ont en fait pas de leadership?
Oui, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens et ça, c'est au détriment de l'efficacité du mouvement en tant que tel. Mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas de leadership, un peu, je peux comparer ça au mouvement des Gilets jaunes en France. Je pense que ça a quand même une certaine force.
C'était Aissata Thiam, consultante en informatique à Washington.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la présentation, Morgane Guiriac et Claire Morin-Gibourg.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous bien sûr sur notre site voafrique.com pour une actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.